à Fontenay-le-Comte. Ils ont investi toute la ville. Et puis, ils ont présenté un certain nombre d'œuvres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelques-unes des...
Les effets papillons.
Oui. Je ne sais pas, on peut peut-être... Je dois avoir le petit catalogue.
Alors ça, c'est le champ des illusions. Je vous ai emmené le catalogue.
Je dois l'avoir. Voilà. Ils utilisent beaucoup l'ombre et la lumière. Il y a un très bon, très bon petit texte sur ces artistes qui d'ailleurs sont connus internationalement. Hein, donc là, en ce moment, ils sont... Alors, donc, ça nous a permis de poser deux questions. Il faudra que vous veniez. La première question qu'on s'est posée, c'est à travers ces artistes, science, technique, pour les artistes, premier grand débat, est-ce que c'est un but ou un moyen? Voilà. Est-ce que la science est un but ou un moyen? En effet, alors je parle du cas de Loriot-Emilia. En apparence, c'est une œuvre complètement avec une démarche scientifique. Il y a, donc, ils utilisent la lumière, la diffraction, vous me rappelez, pour produire des images. Et ils créent des dispositifs spécifiques et qui sont toujours le fruit d'un travail longuement réfléchi. Il n'y a absolument aucun bricolage dans leur démarche, aucune improvisation. Et ils font d'ailleurs appel aussi à des scientifiques à l'occasion, et il y a toutes sortes de calculs. Bon. Alors, en fait, mais la dernière fois que nous sommes allés les voir, ils ont été très clairs à ce sujet. Ils ont dit, la science, oui, on peut étudier notre travail à travers ce prisme, mais pour nous, ce n'est pas un but, c'est véritablement un moyen. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Donc c'est un petit peu en contrepoint. C'est à travers la fragilité des dispositifs, à travers la lumière, la fragilité de la position de l'homme dans la société, et aussi les faux semblants des images, de notre monde d'images, de médias. Hein, c'est bien cela. Voilà. Donc ce qu'ils veulent montrer, ils cherchent grâce à un réseau de transfert l'énigme du leurre sur lequel est fondé notre monde actuel. Donc il y a vraiment, à partir de là, une réflexion, mais qui est d'ordre ironique, souvent, avec beaucoup d'humour, sur le monde actuel et aussi sur tous les dysfonctionnements. Donc, Loriot-Emilia se situe bien dans une tradition un peu de post-dadaïste, qui est aussi Tinguely. Bon, je parlais de Tinguely, ils ont dit non, mais enfin bon, mais qui est ça aussi, de dysfonctionnement. On peut penser à Boltanski, on peut penser Nam June Paik, etc., de regard critique à travers donc une procédure scientifique par rapport à la science elle-même. Donc il aurait été intéressant de savoir où en sont maintenant les artistes par rapport à ces traditions. Est-ce que les artistes actuels, en particulier les jeunes générations, moi j'aurais aimé le demander justement à des artistes, à des gens des écoles d'art, de savoir, est-ce qu'ils se situent plutôt dans cette mouvance post-dadaïste qui critique la société et qui voit qui a un regard de désaveu, ou bien au contraire, dans la tradition du futurisme italien, etc., il y a une sorte de glorification de la science. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, on ne voyait aucune publication sur les relations art-science, et maintenant ça fleurit. Il y a le dernier numéro d'Histoire de l'art, c'est art, science et technologie. Donc on s'intéresse là-dessus. Donc voilà. Et là aussi, je me suis posé cette question. Est-ce que la science n'a pas entraîné l'art aussi dans des impasses au cours de l'histoire? Alors ça, je vais poser la question à Yanis, parce que j'ai pensé par les ambiguïtés de ce jeu entre art et science. Et je pense par exemple à la phrénologie et la physiognomonie, qui a été fort en vogue au XIXe siècle. Il y avait un véritable culte de la physiognomonie de Lavater, et qui a servi de modèle pour les caricaturistes. Hein, et qui alimentait pas mal d'écrits des plus grands critiques de l'époque qui étaient tout à fait favorables à ces sciences, et on sait que c'était des sciences qui sont devenues dangereuses et fallacieuses. Donc effectivement, cette relation art-science pose très vite des questions d'éthique. Alors, je ne sais pas, t'en peux pas ce mot. Je te tutoie. Tu
m'excuses. Oh oui, on peut se tutoyer, oui, on est entre nous là. Hein, de toute façon,
voilà, on est dans le même bateau. Alors, on pense en particulier, on peut trouver cette même ambiguïté dans la biotechnologie actuellement, puisqu'il y a, nous avons, alors tu as des exemples à montrer, des artistes.
Le lapin Alba.
Voilà, des artistes qui utilisent actuellement la matière vivante, qui font des manipulations génétiques. Bonjour. Qui font des manipulations génétiques pour dénoncer certaines dérives de la science, mais en même temps, est-ce qu'ils ne sont pas prisonniers, eux aussi, de ces modèles est-ce qu'il n'y a pas, autour de certaines expériences, autour d'un double langage de certains artistes qui veulent à la fois désavouer des pratiques scientifiques, mais en même temps qui rentrent en plein dans ces pratiques artistiques et qui les pratiquent. Alors, voilà où se trouve la différence entre un objet d'art à partir de ce type de matériaux, bonjour, et un objet scientifique. Alors, est-ce que tu peux répondre à cela? Je ne sais pas. Déjà sur ce premier point.
Désolé, j'étais en train de chercher les
Le lapin, oui, c'est l'exemple, oui, de on a, voilà,
il y a, des choses
quelqu'un
assez mauvais goût parfois,
qui s'est greffé une oreille. Donc, est-ce que ces articles ne rentrent pas justement dans ces rapports assez dangereux, et en cultivant l'ambiguïté, où va-t-on, hein, voilà, entre des aveux et...
Alors, moi, en réalité, ce qui, sur l'inspiration des artistes, hein, par les scientifiques, j'aurais pas forcément grand-chose à dire, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'inspiration des scientifiques par les artistes, hein, c'est quelque chose de tout à fait considérable, hein, dans l'histoire des sciences. Hein. Mm-hmm. Un exemple qu'on évoquait, ou en tout cas de la culture, artistique, dans la culture scientifique. Hein. Par exemple, si on voit Galilée, qui est un des fondateurs de la science moderne à la Renaissance, hein, il a pu observer les reliefs de la Lune parce que, bon, il avait de bons yeux, il avait une bonne lunette, mais il n'était pas le seul à avoir de bons yeux et une bonne lunette astronomique. Hein, la lunette astronomique était, c'était un petit amusement, en fait, à l'époque. Hein. Et il y en a d'autres qui ont pu observer la Lune, mais ils n'ont pas observé les reliefs à la surface de la Lune. Alors en réalité, certains voyaient de la Lune couleur sombre, hein, et de la Lune couleur claire, mais ils ne voyaient pas de relief. En réalité, ce qu'on considère généralement maintenant, c'est que Galilée avait fait des cours de dessin en perspective, hein, il avait fait des cours de mathématiques notamment, des cours de dessin en perspective, hein, et il faisait partie de ceux qui connaissaient l'ombre portée. Parce que pour nous aujourd'hui, l'ombre portée et la perspective sont des choses tout à fait banales. Hein. Ce n'était pas encore le cas à l'époque, à la Renaissance. Hein. Et de fait, donc là c'est peut-être une influence effectivement de la science, hein, ou du génie, enfin du côté ingénieur, vers la culture. Hein. Mais dans l'autre sens, cette connaissance artistique, elle a permis à Galilée d'interpréter ces taches plus sombres comme étant des ombres portées, ce que ne voyaient pas ses contemporains, qui n'avaient pas fait ces cours de dessin en perspective. Voilà, donc ça c'est le type d'influence qu'on... Alors il y a beaucoup d'autres exemples, hein, d'influence de la science par l'art. Ah, ici il y a un autre exemple que j'aime bien, d'influence de l'art par la science, c'est les Martiens. Alors les Martiens, tout le monde connaît les Martiens. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je montre des photos, mais c'est un domaine artistique qui a été tout à fait prolifique au XXe siècle, hein, aussi bien dans la littérature écrite que dans le cinéma, par exemple. Hein. En réalité, ça vient d'une erreur assez intéressante. Hein. C'est que un des premiers à observer Mars en détail hein, était italien, son nom m'échappe là sur le moment, enfin, peu importe. Donc il a parlé des canali, je vous le fais sans l'accent, de Mars. Et canali a été traduit par canal en français et canal en anglais au lieu de chenal ou channel, qui aurait été la traduction correcte. Et qui dit canal, hein, dit artefact et donc martien. Mmh. Et donc, ces canaux ont été décrits, ils ont été vus, pendant presque un demi-siècle. Hein, et au bout d'un moment, avec l'amélioration des dispositifs optiques, hein, eh bien, on a pu se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de canali. Et du jour au lendemain, les scientifiques, avec les mêmes appareils, n'ont plus vu de canali, mais les martiens ont continué à exister dans la littérature et ont continué à alimenter l'imaginaire d'artistes de la littérature écrite ou vidéo. Bah, ça, c'est des petits exemples, mais en réalité, il y a beaucoup de choses comme ça issues de moments de la science. Hein, oui. Parce que la phrénologie, ça a été un moment de la science hein, dont on est beaucoup revenu, c'est vrai. Mais qui a marqué son époque, hein, la fin du 19e siècle.
Ah, mais ça a été véritablement un modèle, en tout cas pour les caricaturistes. Parce que je pense à une caricature de Berlioz. On voit Berlioz avec un très très grand cerveau. Eh bien, ça vient tout droit de la phrénologie. On pensait que les gens très intelligents avaient des cerveaux disproportionnés, etc. Ils étudiaient aussi les zones du cerveau qui pouvaient être...
J'ai du mal avec ce clavier, vous m'excuserez. Ne touchons pas au même endroit que sur... Voilà.
Voilà, elle est la caricature de... Oh, il a tout sur son... voilà. Donc ici, c'est le portrait charge, mais en particulier, les musiciens étaient dotés d'une très grosse tête et de très grands fronts. Une grande chevelure aussi, puisqu'on disait que la musique faisait pousser les cheveux en rigolant.
Ça,
donc, voilà. Bon, donc finalement, il y a toujours une influence de la science sur l'art et de l'art sur la science, mais avec des fois des rapports un peu dangereux. Mais on s'est posé aussi une deuxième question fondamentale à partir de là. Donc, bon, il semblerait, donc pour répondre à la première question, qu'aujourd'hui, plutôt les artistes utilisent la science de manière pour ses procédés, pour sa démarche, mais au service d'une vision critique quand même de la société et du monde. Hein. Donc ça me paraît tout à fait évident. Et il y a une approche, en particulier chez Loriot et Melia, qui est très ludique et on montre justement où on est dans le monde des ombres et de l'immatériel. Alors, la deuxième question que nous nous sommes posées tous les deux, c'est la deuxième grande question, et je pense que Yanis là pourra vraiment davantage répondre. Quel est le dénominateur commun? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun en profondeur entre la science et les arts? C'est-à-dire, est-ce que l'imaginaire scientifique et l'imaginaire artistique sont parallèles ou est-ce qu'ils peuvent se rejoindre? Bon, ça, c'est une question hein, de savoir. Voilà. Alors, j'ai posé cette question à Yanis. Est-ce que si on part d'une esthétique et d'une esthétique traditionnelle, est-ce que l'objet scientifique peut être vu de manière esthétique et de la part des scientifiques eux-mêmes hein, voilà. Ou est-ce que c'est quelque chose d'a posteriori que l'on plaque?
Alors, moi, il y a un exemple que j'aime bien prendre dans le domaine artistique de ce point de vue-là, c'est les mathématiques. En particulier, l'école française de mathématiques a parmi les valeurs qu'il apporte, il y a ce qu'ils appellent, enfin, ce que l'école mathématique française appelle la belle mathématique, les mathématiques esthétiques. Donc, il y a vraiment une esthétique des mathématiques. Peut-être, alors ça vous parlera pas forcément, mais
qu'est-ce que c'est l'esthétique des mathématiques?
Alors, l'esthétique des mathématiques, je vais vous montrer quelque chose, si j'y arrive, qui est très esthétique en mathématiques. Alors, voilà. Cette toute petite formule, hein. Ça, c'est considéré comme un des sommets de l'esthétique en mathématiques. Alors, c'est une esthétique qui est probablement un petit peu ésotérique. Hein, très abstraite. Ah oui, l'esthétique en mathématiques, en tout cas dans l'école française, c'est une esthétique qui est purement abstraite. Hein. Cette formule regroupe les principales grandes constantes mathématiques. Hein. Donc, vous avez le 0. Hein, alors d'abord le 1, hein, la base de toute numération, hein. Le 0, qui est souvent considéré comme une des plus grandes inventions des mathématiques, qui nous est arrivée par les Arabes en provenance. Bon, alors l'histoire est un petit peu compliquée, mais disons que la numération de position nous est arrivée par les Arabes en provenance de l'Inde. Et le zéro lui-même a été introduit dans notre ère par Al-Khwarizmi, qui a donné algorithme en français, enfin en l'honneur de qui on a nommé les algorithmes des algorithmes, hein, qui est un mathématicien perse du, si je me souviens bien, 9e siècle de notre ère. Hein. Donc le zéro, il a fait plein de choses très intéressantes, hein, ce mathématicien, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le 0, E, c'est la base du logarithme népérien, donc toutes les tables de logarithmes sont à partir de ce nombre-là. I, c'est la racine carrée de moins 1. Alors, c'est un nombre qui, multiplié avec lui-même, donne moins 1. C'est quelque chose d'assez étrange. C'est une des créations de mathématiques qu'on pourrait penser complètement abstraite, mais qui, en réalité se trouvait très vite avoir une utilité en physique. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut apprendre au lycée, en terminale scientifique, par exemple, hein, peut-être même en première, et qui est en réalité extrêmement utile, alors qu'on pouvait imaginer ça comme purement abstrait, purement un jeu de l'esprit. Et vous reconnaissez pi, hein, donc pi, la demi-circonférence du cercle. Hein, voilà. Donc on a regroupé dans une seule formule, finalement, toutes les grandes constantes, tous les grands noms, si on veut dire, des nombres mathématiques, hein, et sa démonstration, la manière de prouver cette chose-là, les théories qui sont derrière sont des choses qui sont considérées comme assez jolies par les mathématiciens, voire même tout à fait esthétiques, par le côté ramassé des preuves, hein, le côté ramassé d'une preuve. C'est quelque chose qui est considéré comme esthétique. Le fait qu'on utilise des arguments qui aient de la finesse, alors c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à décrire à des non-mathématiciens, mais on peut avoir des raisonnements qui sont qualifiés d'esthétiques, de beaux, et certains mathématiciens prétendent, alors moi j'ai fait des études de mathématiques, donc c'est des choses que j'arrive à ressentir, certains mathématiciens prétendent ressentir des émotions esthétiques devant telle ou telle preuve ou telle formule. Il y a d'autres formules, je ne vais pas vous assommer avec ces choses-là, mais les formules qui, par exemple, vont indiquer les relations entre le nombre de... Quand, si vous imaginez un solide dans l'espace, mm-hmm. il y a une relation entre le nombre de faces, le nombre d'arêtes mm-hmm. et le nombre de sommets. Mm-hmm. Et il y a une équation qui relie ces choses-là et ouais. sa démonstration classique par Euler, hein, qui est un mathématicien du 18e siècle, si je me souviens bien, est considérée comme une des plus belles. Donc il va y avoir des critères comme ça qui sont assez difficiles à formuler, mais sur lesquels les mathématiciens s'entendent pour ouais. qualifier quelque chose ouais. d'esthétique.
Parce hein. que tout à l'heure, quand tu parlais, je me disais, c'est une affaire de vocabulaire, au fond, est-ce que c'est la même esthétique Mais parler d'émotion esthétique, est-ce que c'est la même... Enfin, je ne sais pas si vous avez vous-même des réactions. Est-ce que c'est la même émotion esthétique que devant une œuvre d'art, là, problème ? Est-ce qu'on parle exactement du même objet ? C'est ça la question que je me pose. Ou bien alors, est-ce qu'on n'est pas aussi dans la confusion d'une esthétique qui a été forgée par le classicisme, qui a un peu... Mais là, avec la raison qui est là, l'ordre, l'harmonie, etc. Je ne sais pas. Mais c'est difficile. Enfin, la notion d'émotion esthétique, pour moi, elle est dure à comprendre, personnellement, mais je ne sais pas si...
Il y a un aspect culturel, hein. La notion d'harmonie, par exemple, c'est quelque chose qui est... Enfin, je veux dire, on ne ressent pas l'harmonie classique européenne, l'harmonie au sens japonais. Mmh. Ça ne va pas être... Ça ne va pas forcément se oui. caractériser.
Est-ce que l'émotion esthétique d'un mathématicien japonais est la même que l'émotion esthétique?
Ça, je ne connais pas assez les Japonais, mais je sais que les Américains ne ressentent pas les émotions esthétiques forcément devant les mêmes choses. Ah, hein, y a un aspect culturel tout à fait évident. Mais je sais qu'à titre personnel, hein, mm-hmm. Les grandes émotions esthétiques que j'ai pu avoir, c'est le sanctuaire d'Apollon à Delphes, par exemple. Oui. C'est quelque chose qui est absolument... enfin, que je, personnellement, trouve tout à fait sublime et qui prend les tripes et les tire, enfin, qui provoque réellement des émotions. Un beau raisonnement mathématique, hein, donc oui. une esthétique qui est purement de l'ordre de la rationalité, d'une certaine manière, hein. Peut être du même ordre.
Oui, on ne sait pas qu'est-ce qui renvoie à quoi. Ouais. On ne sait pas si c'est l'art qui renvoie aux maths ou si c'est les mathématiques. C'est peut-être parce que vous aimez les mathématiques que vous avez aimé le sanctuaire d'Apollon et pas le palais du facteur cheval. Enfin,
non, mais c'est possible. C'est possible.
Je
ne
sais pas
possible.
Qu'est-ce que vous en.
Pour moi, c'est une forme de sublime, certainement pour un mathématicien aussi, mais au sens d'harmonie aussi. Mmh, mmh. Ça passe pas par une main. Excusez-moi. Je pense qu'on parle pas de la même chose, effectivement. Là, je pense que c'est peut-être un plaisir esthétique de la part d'un mathématicien, il faut lui en faire crédit. Mais,
oui.
À mon avis, dans ce cas-là, c'est un plaisir totalement abstrait, on va dire éventuellement intellectuel. Mais,
oui, genre, c'est ça.
Compte, on doit le respecter.
Voilà, est-ce qu'on parle de la même chose ? Oui, c'est ça.
Alors, philosophiquement, c'est lié à une question qui taraude d'ailleurs les philosophes des mathématiques depuis très longtemps, c'est la nature des objets mathématiques, hein. Et est-ce qu'ils existent réellement dans le monde ou pas ? Et les philosophes des mathématiques ne se sont toujours pas mis d'accord, hein. Et je doute fort qu'ils se mettent d'accord un jour. Mm-hmm. Et de fait, il y a ceux qui vont estimer que les mathématiques existent dans le monde, mais existent aussi, ils existent autant que cette table, hein. Et ils ont des arguments intéressants, hein, le fait que les mathématiques qui semblaient les plus abstraites finissent par s'appliquer en physique, en économie, en analyse du discours, etc., etc. C'est un argument qu'ils utilisent abondamment. Les réalistes qui vont estimer qu'on a des choses qui peut-être ont une forme d'existence, mais qui est de nature tout à fait différente des objets concrets.
Mais au fond, moi je pense que pour tous les autres domaines de la science, je pense pas aux maths, les autres, on peut se rejoindre dans ce sens que c'est le regard, c'est toujours la même chose qu'on porte sur les choses. Si on a le regard artistique, on va voir dans l'objet scientifique qu'on étudie quelque chose d'esthétique. Voilà. C'est toujours la même chose. C'est bon.
C'est l'esthétique qui ne s'incarne pas.
Ça ne s'incarne pas.
C'est l'esthétique mentale.
Voilà, voilà.
Même pour un grec, certainement, les figures géométriques de base étaient une émotion intellectuelle, peut-être une émotion artistique, mais enfin, ça ne s'incarnait pas. Ils ont beaucoup cherché à l'incarner dans des œuvres. Mais on ne parle pas de la même chose parce qu'il n'y a pas l'incarnation, sinon c'est
oui.
qui n'est qu'une trace d'une pensée. C'est tout.
Oui.
Oui, non, mais enfin, moi je ne prétendrais pas. Enfin,
mais il y a un problème de vocabulaire.
Absolument pas spécialiste de l'art. Mais
il manque des mots. Parce que je pense que le mot émotion n'est peut-être pas en adéquation complètement. Enfin, moi, je ne suis pas à votre place. Le mot jouissance, peut-être pas encore, je ne sais pas. Euphorie, pardon ?
Je ne suis pas certain là-bas. Parce que
jouissance ? À des fois, oui.
Qui
a jouissance.
C'est le. À titre personnel, pour avoir pratiqué également des arts martiaux, il y a là aussi une forme d'esthétique qui peut être perçue visuellement, mais chez le pratiquant, est en réalité une esthétique du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une notion de mouvement harmonieux. Un mouvement harmonieux, ça peut se définir au moins de manière très grossière en disant qu'un mouvement est harmonieux s'il est économe pour atteindre un certain but. Ça, c'est des critères qu'on va retrouver dans certaines pratiques artistiques, qu'on va retrouver dans les pratiques mathématiques aussi. Un beau raisonnement, c'est un raisonnement qui va faire trois lignes, là où tous ses prédécesseurs faisaient trois tomes d'ouvrages très compliqués. Donc il y a un peu cette...
Mais est-ce que ce n'est pas aussi culturel, je pose question, parce que nous avons quand même été, en particulier, on a eu une culture de la sobriété à travers le classicisme, pas la même chose dans le baroque. Et ensuite, après, le japonisme, alors là, c'est aussi les choses en creux qui ont de la valeur et moins on me dit...
Absolument, c'est tout à fait vrai. Oui,
dire beaucoup avec peu, mais c'est complètement culturel aussi. On en revient toujours à cette chose-là, finalement. Tout à fait.
Alors, on retrouve aussi ça dans des résultats scientifiques. Ce que cherche à faire beaucoup de science, c'est à résumer par des théories qui s'expriment de manière courte, de manière synthétique, des observations qui sont nombreuses et variées. Typiquement, le Newton, qui découvre la gravitation universelle, c'est la même loi, finalement, assez simple, qui fait qu'une pomme tombe, l'exemple est presque caricatural, qui fait que la Lune tourne autour de la Terre. C'est très exactement le même phénomène. Einstein, qui va réussir à mettre dans une loi unique... Les phénomènes de gravitation, de déformation du temps et de l'espace dans certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des théories qui pouvaient paraître complètement abstraites, mais aujourd'hui, c'est des choses tout à fait banales. Quand on utilise un GPS, on utilise la relativité d'Einstein sans le savoir. C'est plus des choses... on utilise la déformation du temps et de l'espace sans le savoir. Ça fait partie des petites curiosités qu'on ne connaît pas. C'est comme beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte que quand ils utilisent une voiture, en réalité, il y a pour le moindre petit trajet, il y a des milliers d'explosions qui se déroulent dans leur moteur. Elles sont maîtrisées, elles sont à l'intérieur des cylindres, mais ça reste quand même des explosions. Il y a parfois des. Une perception de la technique qui n'est pas toujours évidente. Et derrière, c'est parfois des théories qui sont extrêmement élaborées ou extrêmement harmonieuses ou extrêmement ceci et cela. C'est vrai, peut-être qu'il faudrait regarder la perception de scientifiques qui sont issus de cultures ou des cultures plus éclectiques, plus qui aiment bien l'ornement. Plutôt que la sobriété, je pense que ce serait intéressant à regarder effectivement
perception de ce genre de loi. Par exemple, est-ce qu'en Inde on a exactement la même vision des choses, parce qu'il y a un art qui est très... Pardon ?
Je pense que non.
Alors, les Indiens ont une culture mathématique extrêmement développée. Ça fait partie des grandes nations des mathématiques.
Oui, je sais.
Il y a quelques mathématiciens indiens qui avaient des facultés de vision de formules. Il y a en particulier Ramanujan. Je suis incapable de prononcer son nom comme il faudrait, mais Ramanujan, qui était un mathématicien qui a été très productif dans le début du XXe siècle, hein, qui a produit des formules qui sont d'une extrême complexité. Et à vrai dire, personne n'arrive vraiment à voir comment ces formules-là peuvent produire le résultat qu'elles produisent. Hein. Il y en a dans tous les sens. Là, c'est vraiment le... Là, pour le coup, on est vraiment dans l'art de la surcharge.
Ça, c'est intéressant. Hein.
Je n'avais pas pensé à ça. Et je pense que si on fait une recherche de formules...
Ça serait intéressant de creuser dans ce... d'aller vers ce domaine-là.
Alors, Srinivasa Ramanujan. Voilà. La personne en question.
En particulier, peut-être voir l'influence de l'environnement architectural dans les modèles de pensée des gens, je pense. C'est vrai. Moi, je pense que moi qui ai passé mon enfance au pied de la cathédrale de Strasbourg, à côté d'un monument gothique, et bien, quand je suis arrivée à Poitiers, je pensais pas... On ne pense pas le monde de la même façon quand on est avec on n'est pas structuré de la même façon. Enfin, je suis peut-être du délire de ma part, mais je pense que ça joue beaucoup l'environnement architectural.
Ah, mais c'est certain que ça construit notre esthétique. Ça, c'est pas une esthétique. On peut comparer la formule de tout à l'heure, la formule de l'air et la formule de Srinivasa Ramanujan. Voilà, il y a là beaucoup de nombres dont on se demande ce qu'ils viennent faire là. Pourquoi 4,99 pourquoi 26 390? Là, on est vraiment dans une formule qui va aller dans le compliqué, dans l'ornementé, dans le...
Et on doit trouver ça dans la langue aussi, forcément aussi.
Alors, il y en a d'autres. Hein. Il en a fait d'autres. Bon, là, on n'en a pas beaucoup. Je suis sur Wikipédia, mais on a quelques... on a quelques formules qui sont d'une complexité qui est encore très au-delà de... Encore très au-delà de celle-ci. Et il a beaucoup de formules de ce type-là qui permettent de calculer pi avec des formules affreusement complexes, mais qui sont efficaces. C'est-à-dire qu'ils permettent de calculer pi de manière très efficace, très rapidement. Simplement, personne n'est fichu de dire d'où elles peuvent venir. Alors lui, il les rêvait. Il rêvait que c'était je ne sais plus quelle déesse qui lui dictait ça pendant son sommeil. Hein. Et
la poétique qui vient.
Alors les liens entre l'inspiration poétique et l'inspiration mathématique, c'est quelque chose qui est sur laquelle beaucoup d'auteurs ont écrit, hein, en particulier Henri Poincaré, qui était un très très grand mathématicien français qui a travaillé notamment au début du 20e siècle, hein, qui est le frère du Poincaré président. Qui a beaucoup écrit sur l'inspiration du scientifique. On est dans l'ordre de l'inspiration. Hein. La science, c'est de la méthode, de la rigueur, de beaucoup de choses de cet ordre-là, mais c'est aussi de l'inspiration. Hein. Il ne suffit pas d'être bon techniquement pour faire de la bonne science. Il faut avoir un esprit qui vagabonde, un esprit inspiré. Enfin, il
quand
faut avoir.
Disons que
chez les grands, on trouve cet esprit vagabond, cet esprit inspiré.
Est-ce qu'on peut démonter on peut pas démonter l'inspiration, on peut pas. Hein. Je sais pas, je vous pose question. Qu'est-ce que c'est l'inspiration poétique?
Même dans l'ordre de la poésie, c'est pas.
Ben oui.
Ça a une histoire aussi.
On peut la placer dans la sensation aussi, l'inspiration.
Dans
la sensation. Au départ, c'est une sensation.
Alors les philosophes du langage distinguent bien ces deux ordres. Ils distinguent ça y est, le terme m'échappe, je n'avais pas préparé ça, mais les attitudes propositionnelles, ce qu'on appelle les attitudes propositionnelles en philosophie du langage. Hein. Donc c'est un sentiment qu'on peut avoir, mais qui peut être formulé par une proposition qu'on pourrait... formulé d'un point de vue logique avec un ou plusieurs objets et une ou plusieurs relations entre eux, on va dire.
Est-ce qu'on peut, excusez-moi si je dis des bêtises, hein, est-ce qu'on peut imaginer une inspiration qui serait commune, identique, et après ça va vers la poésie ou les sciences, ou bien il y a des types d'inspiration spécifiques. Est-ce qu'on sait ça?
Je ne sais pas.
Ça dépend de la présentation culturelle qu'on se donne, mais je pense qu'il faut retourner à la mélancolie, par exemple.
Oui.
La façon dont on représente la mélancolie,
oui,
début du XVIe siècle, avec Durer, par exemple,
oui,
on a peur.
Oui.
Là, il n'y a pas de séparation. C'est, la mélancolie est une figuration du génie, mm-hmm, qui peut aussi bien être géométrique que, qui peut être géométrique côté science ou géométrique côté culture.
Oui.
Je crois que c'est culturel. C'est là,
oui.
Vous savez très bien qu'il y a jusqu'à pas si longtemps, en réalité, on ne sépare pas.
Mm-hmm.
On ne sépare pas les sciences
des arts. Oui, on ne sépare pas. Absolument.
Dans l'Antiquité, la poésie et les mathématiques, c'était, voilà, c'était, j'allais dire, c'est deux faces d'une même pièce. En réalité, c'est deux facettes de quelque chose qui en avait au moins cinq. Hein. Les muses, les muses sont dans des catégories qu'aujourd'hui on qualifierait pour certaines d'artistiques, pour d'autres de scientifiques. La mémoire, on ne la mettrait pas forcément parmi les muses. Mais c'est vrai que pour voir un petit peu faire un certain nombre d'artistes qui sont aussi des scientifiques, beaucoup emploient en tout cas les mêmes termes pour désigner les deux types de manifestations psychologiques, on va dire. Alors après, ils n'ont pas forcément raison de le faire. Hein. Là, je ne suis pas qualifié pour avoir un avis sur la question. Mais je note qu'en tout cas, ils le font. Et alors bien sûr, il n'y a pas que ça qui fait quand même un grand scientifique. Hein. Il ne suffit pas d'avoir de l'inspiration. Si on se rapporte à l'exemple de l'invention des premiers antibiotiques, hein, l'invention de la pénicilline, hein, il y a aussi de la chance. Hein, c'est qu'on tombe sur une manifestation et on a une culture scientifique suffisante pour repérer quelque chose d'intéressant dans une manifestation accidentelle.
Hein, il avait mis c'est encore de la chance.
Ah ben il y a de la chance. Il a remarqué que il y avait une tranche de pain qui avait moisi à côté d'une culture dans une boîte de pétri. Et autour de la tranche de pain, la culture ne s'était pas développée. Or, d'autres auraient jeté la tranche de pain moisie et ce ne serait pas posé plus de questions que ça. Fleming, lui, a repéré qu'il y avait là quelque chose d'intéressant et il a creusé la question. Donc, il a eu la chance de tomber sur la situation de la tranche de pain moisie à côté de sa boîte de pétri. Ça, c'est la chance. Mais il avait sa grande culture et puis sa curiosité naturelle qui ont fait le reste. Donc il y a aussi des phénomènes accidentels hein, dans l'histoire des sciences. Il y a des grandes régularités. Il y a des choses qui se trouvent être de... Le transistor, par exemple, a été inventé la même année par deux personnes différentes dans des labos différents qui ne travaillaient pas sur
c'est le grand mystère de celui qui sait voir, parce qu'on a ça en lettres aussi. Émile Bernard, il a fait un tableau avec la prairie verte, et puis il avait tout préparé. Et puis Gauguin, il a su voir et donner après la vision, après le sermon. C'est ça, c'est
absolument.
Un moment. Voilà.
Alors, par rapport à ça, il y a un point dont on a discuté en préparant un petit peu cet après-midi, qui, moi, me semble extrêmement important. Oui. C'est l'influence très, très forte de la littérature sur certaines sciences. Alors en ce moment, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un cours d'histoire de l'informatique. Quand on regarde l'histoire de l'informatique, ça a été inspiré par deux choses. D'une part, par des recherches purement mathématiques sur la logique. Donc les premiers ordinateurs qui ont existé, c'était en réalité des théorèmes mathématiques, des objets mathématiques. Ça s'appelle les machines de Turing. Les machines de Turing, c'est un objet purement abstrait qui n'a aucune contrepartie physique. Et simplement, c'est quand même la structure des premiers ordinateurs qui seront construits. Donc lui, il conçoit ça en 1932-1933. Je vous donne les dates approximativement parce que je n'avais pas préparé ça, mais bon. Et les premiers ordinateurs, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le milieu des années 40. Ça existe d'abord comme un objet mathématique. C'est intéressant à voir. Et bien avant ça encore, ça existe dans la littérature. On a, alors, si on va très loin dans la littérature, on trouve chez Homère hein, des... oui, c'est curieux. Hein, on trouve des trépieds qui se déplacent tout seuls, des servantes d'or, donc c'est des statues animées si on veut. Donc plus tard, on trouvera le...
Mais est-ce que c'est la même chose?
Alors, c'est pas la même chose. C'est des choses qui ont inspiré...
Voilà. C'est notre regard qui revisite... Voilà. Et qui reconnaît voilà. Les prémices de l'ordinateur, mais si on est dans l'histoire, c'est
ah, de point de vue historique, le lien n'est qu'un lien d'inspiration. C'est des choses qui ont suggéré des idées chez les scientifiques.
Ah, chez les scientifiques, voilà. qui connaissaient Homère.
Qui connaissaient cet aspect-là d'Homère, qui connaissaient des choses plus récentes. Hein. Il y a le golem dans la littérature yiddish, dans la littérature yiddish. Il y a il y a l'ève future de Villiers d'Adam, il y a Frankenstein, hein. Il y a les robots de Karel Čapek, donc c'est une pièce, alors le titre exact c'est Rossum Universal Robots, donc les robots universels de Rossum, c'est une pièce tchèque du début des années 20. Donc le robot, ce qui existera plus tard en littérature qu'on appellera de science-fiction, on n'appelle pas encore ça comme ça à cette époque-là, c'est quelque chose qui existe dans la littérature bien avant d'exister dans la réalité technique.
Donc, excusez-moi, ça veut dire que les films scientifiques, enfin, de science-fiction aujourd'hui sont peut-être la réalité de demain.
Absolument. Il y a une inspiration mutuelle des deux. Il y a un laboratoire tout à fait, de recherche tout à fait avancé sur les interfaces homme-machine à l'université de, c'est à Stanford, hein, le Media Lab, hein, est-ce que c'est Stanford ou est-ce que c'est le MIT, non c'est au MIT pardon, qui s'appelle le Media Lab, hein, qui a produit un certain nombre d'objets de recherche, hein, on peut dire scientifiques si on veut, d'objets de recherche qui ont inspiré beaucoup de films. Il y a un certain nombre d'auteurs de films de science-fiction qui sont allés voir ce qu'on faisait au Media Lab pour aller chercher de l'inspiration. Ces interfaces où on a des grands écrans tactiles dans Minority Report, ça a existé au Media Lab, ça a inspiré la science-fiction, Minority Report en l'occurrence, et qui a ensuite inspiré les auteurs qui ont fait des tablettes tactiles. Hein. Et les interfaces tactiles qui aujourd'hui sont en train de se répandre sont en train de faire un malheur commercial. Donc il peut y avoir des allers-retours d'inspiration. Pour moi c'est pas plus que ça, les liens historiques sont pas forcément plus forts que des liens d'inspiration.
Oui, d'inspiration.
Donc ça suggère des idées. Après l'inspiration ça peut être des choses plus compliquées que ça, mais il y a au moins l'aspect de suggérer des idées ou de suggérer un mouvement. Hein, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont décrit l'idée d'avoir des cerveaux électroniques qui dirigeraient l'humanité. Parce qu'il faut savoir qu'on sortait quand même d'une sacrée boucherie. Hein, donc il y a un certain nombre de penseurs humanistes qui ont vu les cerveaux électroniques, qui n'existaient pas encore à l'époque. Hein. Il y avait peut-être 4 ordinateurs sur la planète ou 5 ordinateurs sur la planète, et c'était dans des labos de recherche, c'était pas des... On en était vraiment en balbutiement, qui suggéraient déjà que des cerveaux électroniques, on dit ça comme ça, pourraient un jour gouverner l'humanité pour son bien.
Donc le lien entre sciences humaines et sciences dures, ça serait par un réseau de métamorphoses, au fond, des découvertes qui...
Voilà, de l'inspiration réciproque, de la suggestion, d'idées. Parce que la littérature, alors moi je ne connais pas ça au-delà du XXe siècle, hein, mais, enfin au-delà, en deçà je devrais dire, du XXe siècle, mais celle qui s'est d'abord appelée littérature d'anticipation, qui a donné notamment la littérature de science-fiction plus tard, c'est des auteurs qui aimaient aller pousser certaines idées au bout de leur logique, qui aimaient voir les implications sociales de telle ou telle évolution possible de la société. Il y a un esprit d'exploration dans cette littérature-là. Donc on a quelque chose qui est similaire, qui peut avoir une certaine parenté avec l'exploration
scientifique. Et aujourd'hui, la littérature de science-fiction est aussi florissante.
Je ne connais pas bien beaucoup, mais
oui. Elle continue, c'est voilà. Il n'y a pas de dépérissement par rapport aux avancées scientifiques ou technologiques. Je ne sais pas. Hein.
À ma connaissance, elle continue à être riche. On n'est pas dans la grande époque des années, des années 70-80, mais aujourd'hui, on a Internet, et, quelque chose qu'on appelle parfois le cyberespace. Le cyberespace, il est né dans la littérature avant de naître dans la réalité. Internet tel qu'il a existé par la suite a été modelé par toute la littérature cyberpunk des années 80 notamment. Il a été construit quand même par des ingénieurs, des scientifiques, etc. Je ne suis pas en train de dire que la littérature a tout fait, mais elle a, par certains côtés, elle a donné une direction dans laquelle un certain nombre d'ingénieurs et scientifiques ont pu se placer. Hein, les directeurs.
Il y a des formes de culture aussi qu'on nourrit.
L'idée que la culture, ce serait un ensemble de mondes clos, elle n'a pas de sens. Enfin, on a dans la salle un spécialiste des cabinets de curiosité. Pour moi, c'est un exemple, c'est un exemple tout à fait central de ce genre de convergence entre la culture et la pensée de recherche, on va dire. Parce qu'à certaines époques, c'est un peu difficile de parler de pensée scientifique, ça peut paraître un peu anachronique, mais en tout cas, de ce qui deviendra la pensée scientifique.
Justement, pardon, merci de me parler.
Là, je pense que...
des questions intéressantes, je ne sais pas, mais moi, je les trouve intéressantes. Savoir si le modèle des capitalités ne va pas redevenir un modèle cohérent par rapport à notre situation actuelle, peut-être pas maintenant, peut-être dans 20 ans, je ne sais pas. Il y a un regard d'intérêt.
Ah oui, oui, oui.
Il y a une redécouverte de quelque chose du modèle, même si certains artistes vont créer ça en état. Il ne faut pas oublier que c'est un modèle pré-scientifique, on peut dire ça comme ça.
Oui.
Et puis, au XVIIe siècle, en gros, pour aller vite, on dit que ce modèle ne convenait plus à la pensée du monde qu'on essayait de conquérir, en quelque sorte. Mais bon, on peut penser ça non pas comme une fin d'histoire, comme dit l'autre, comme un moment historique qui a peut-être été nécessaire pour séparer, classer, ordonner, construire. Peut-être 5 siècles après, en gros,
on va revenir à ça.
On arrive à un stade différent où il y a besoin, au contraire, de penser de nouveau ensemble.
Je me suis posé aussi une question, parce que souvent, je pensais, dans la littérature, on parlait d'Harry Potter, qui est la magie. Et on revient à ce concept de magie. Et je me suis posé une question, qui est une régression par rapport au modèle scientifique, ou je ne sais pas. L'artiste est aussi un magicien. Maintenant, c'est plus dans l'ordre du faire, c'est celui qui crée des métamorphoses, qui étonne, qui crée un émerveillement. Alors ça, c'est peut-être un dénominateur commun avec le scientifique. Est-ce que tu vois quelque chose de cet ordre-là ? Parce qu'effectivement, la magie, qui est la capacité d'émerveiller et d'étonner, de découvrir, de dévoiler, enfin, je ne sais pas.
Parce que la rationalité au sens purement humain, auquel on a limité, nous
sommes tous
paraît trop de bêtises à la fois, mais on est à un stade où on est dépassé en quelque sorte, parce que l'avancée des sciences et des technologies fait que, évidemment, c'est toujours dans la rationalité, mais c'est plus une rationalité qui est appréhensible de la même façon, me semble-t-il, ou moins par le Pékin moyen. Je parle de grand scientifique.
Alors,
ça ouvre la porte.
Ah oui.
Il y a un auteur de science-fiction qui, je trouve, a une... Alors, je ne me souviens plus lequel c'est. Je crois que c'est Frank Herbert qui faisait remarquer que quand on a des avancées scientifiques qui sont tellement loin de ce que connaît les contemporains, que ça devient indiscernable de la magie. Sauf pour ceux qui connaissent, évidemment, parce que pour les scientifiques qui développent ça, on n'est pas du tout dans l'ordre de la magie. Même la science moderne s'est construite en rupture, justement,
avec
par rapport
la magie,
à ça.
Oui. Hein,
en rupture avec le merveilleux, en rupture avec le merveilleux, qui était beaucoup développé par les savants du Moyen-Âge. Hein, développé beaucoup une culture du merveilleux, alors que les savants de la Renaissance et qui vont construire la science moderne se mettent en rupture nette par rapport à ça. Ils rejettent la tradition, ils rejettent le merveilleux, mais ils gardent l'émerveillement. Ça, l'émerveillement, le fait d'aller toujours plus loin, ça, c'est quelque chose qui reste très, très fort dans les...
Et aujourd'hui, on en est à l'émerveillement.
Alors, aujourd'hui, disons que si on veut être bon en science, il vaut mieux continuer à être émerveillé par les choses sur lesquelles on travaille. Sinon, n'y a pas d'inspiration sans émerveillement.
La fin du XXe siècle, au moins, se marque par un changement d'échelle, me semble-t-il.
Oui.
Ah, ouais. Ça, c'est clair.
Changement d'échelle. Oui.
Ce que je voulais dire dans la rationalité purement humaine de base, avec
oui.
Maintenant, il me semble qu'il y a, là, il y a un saut, enfin, il y a une rupture
oui.
dans l'appréhension de l'être humain normal, moyen,
Oui,
les vrais
oui.
scientifiques, certainement, ne vivent pas comme ça.
On pas vu comme ça, mais nous, on n'a pas accession. Donc, on aurait besoin d'avoir cette... Et au fond, je pensais aussi, par exemple, là aussi, je dérive un peu, mais j'ai pensé, nous avons vécu avec l'idée de pied sur la Lune. Et là, tout s'est effondré après, parce qu'on n'avait plus cet émerveillement à portée de main. On a beau nous parler, qu'est-ce que tu en penses ? De Mars, de... Mais maintenant, voilà, on est devant l'inconnu. Il faut placer la frontière. Il faut qu'on arrive maintenant, qu'il soit accessible à tout le monde, pas seulement aux scientifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
État,
pardon ?
Par l'état intermédiaire, il ne faudrait pas le dire comme ça. Enfin, il y a une réalité
oui.
aussi intéressante. C'est tout ce qui se joue du côté des armes numériques.
Ah non, mais moi, je n'ai pas de problème.
Il y a des choses extrêmement intéressantes. Alors, j'ai mis cette image-là parce que, avant qu'on en vienne aux arts numériques, quand on parlait de changement d'échelle, hein, aujourd'hui, on a quelques dispositifs expérimentaux qui font 30 km de diamètre. Hein, les accélérateurs de particules qui sont du CERN, hein, c'est des appareils qui font 30 km de diamètre. Vous voyez ici un homme. Je pense que ça doit être un homme. Là, j'avais pas d'image peut-être de meilleure qualité sous la main. Enfin, vous voyez l'échelle. Hein. Si c'est pas un homme, en tout cas, un homme ne doit pas faire une taille très différente de ça. On est sur des dispositifs expérimentaux qui sont de taille tout à fait considérable, pour laquelle un pays entier n'a pas forcément assez de ressources et on est obligé de collaborer. Donc on a, c'est vrai, un accroissement de l'ampleur de la science, et c'est vrai que la question de l'inspiration, la question du merveilleux, parfois elle n'est pas forcément aussi visible que ce que ça pouvait être quand on pouvait être à la fois un spécialiste de l'optique, un spécialiste de la physiologie de tel ou tel animaux, un philosophe, etc., etc. Quand on voit des esprits comme Leibniz, hein, qui était à la fois grand philosophe, grand ceci, grand cela. On en a encore quelques-uns, des comme ça. Vous connaissez peut-être John von Neumann. Hein. John von Neumann, c'est à la fois un des fondateurs de la mécanique quantique. C'est à la fois un des deux fondateurs de l'économie mathématique contemporaine. C'est un fondateur de la logique mathématique. C'est, quand je dis fondateur, c'est une des quatre ou cinq personnes qui ont vraiment mis en place la discipline. C'est lui qui a pensé le schéma sur lequel tous les ordinateurs depuis les années 40 sont construits. Là, c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit. On a quand même quelques grands esprits. Il n'est pas forcément aussi connu qu'Einstein, mais c'est au moins un esprit au moins aussi puissant que celui d'Einstein. On a encore quelques grands penseurs universels comme ça. Bon, il est mort depuis un moment, hein, John von Neumann, mais on a des gens qui peuvent avoir ce type de culture large dans plusieurs disciplines. Et l'idéal de l'homme universel n'a peut-être pas complètement disparu, même si c'est difficile dans une société bureaucratique comme la nôtre d'être ce genre de choses. On a quelques collègues à l'université qui sont quand même des esprits très larges comme ça.
L'humanisme, au fond, c'était ça.
Oui, c'est l'humanisme. Alors peut-être que...
Sauf qu'il faut savoir ce que c'est que l'universel aujourd'hui, et voilà quoi. Et savoir ce que c'est que la culture de base qui permette de comprendre où se situe la barre pour que ça progresse.
Là, joker, je ne répondrai pas à cette question. Mais c'est vrai
mais
que...
Mais culture universelle, ça veut dire qu'ils ont une ouverture vers les lettres aussi, qui peut leur apporter quelque chose.
Pour certains, oui. Pour certains, c'est très clair. Il y a une vraie culture. Il y a une vraie culture littéraire, pas pour tous, hein. Après chacun, enfin, moi je sais que quand je faisais mes études, j'avais des amis qui étaient passionnés par les lettres, d'autres qui étaient passionnés par la musique, d'autres qui étaient passionnés par les arts. Moi quand j'ai fait mes études d'informatique, j'ai côtoyé un certain nombre de personnes qui faisaient ce qu'on va appeler des arts numériques ou du web art ou de, et parfois avec des créations très intéressantes qui renouvellent, hein, qui renouvellent par certains côtés l'approche de l'art, hein, parce que ben, les approches traditionnelles de l'art, ben, on avait l'artiste, on avait le support, on va dire le support au sens large, hein, et puis on avait celui qui voyait ou qui lisait l'œuvre. Hein. Aujourd'hui, le support, il est plus passif. Hein. On a un support qui peut faire intervenir le hasard, le vrai hasard, hein, parce que quand on fait des cadavres esquis, c'est pas du vrai hasard, c'est du, enfin toutes les productions oulipiennes, hein, on n'est pas dans le qui travaille sur le hasard, c'est un hasard qui vient de l'homme, hein. Mais là, on peut faire intervenir avec l'ordinateur du vrai hasard, on peut
le hasard d'un artiste.
On peut faire
la culture d'un artiste.
Le web art a donné des possibilités nouvelles. Et puis le multimédia. Là, justement, on pensait montrer. Bon, peut-être on ne va pas montrer toute l'œuvre, mais des choses dans les arts numériques. L'hybridation. Hein, nous, on a un intervenant dans mon master qui a fait vraiment un cheval de bataille d'interprétation justement d'un certain nombre d'arts numériques sur l'hybridation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rassembler en une œuvre des choses qui sont d'origine très diverse. On trouve peut-être des inspirations du côté de Michael Neyman en musique répétitive par exemple. Michael Neyman, enfin la musique répétitive de manière générale, on fait pas un morceau avec des notes. On fait un morceau en utilisant comme élément des suites de notes. Donc ça peut donner un peu cette impression de répétition parce que c'est toujours les mêmes suites de notes qui sont utilisées pour, comme élément atomique du langage musical. Et on va trouver des œuvres comme
mais
celle-ci.
Le but, c'est l'esthétique de vos équations. Le but, c'est le même.
Le but, non, le but, il est vraiment plus artistique, je
plus
dirais.
Plus artistique.
Parce que on est plus des gens qui sont des artistes qui utilisent en l'occurrence d'autres œuvres. Je vais laisser un petit peu de... Donc ici on est dans un mouvement qui ceux qui le pratiquent se définissent comme VG. Alors les DJ c'est pour la musique, les VG c'est pour la musique et la vidéo. Donc là on voit un artiste qui s'appelle Giovanni Sample, qui est un artiste italien, qui va intégrer des musiques, hein, des paroles et des images de différents univers pour recréer, pour en faire des briques atomiques, enfin des éléments de son langage artistique, pour en faire quelque chose qui est tout à fait différent. On n'imaginerait pas avoir dans la même pièce musicale du Glenn Gould, du Bach joué par Glenn Gould et du Michael Jackson et du Kraftwerk et on est là sur une œuvre qui s'appelle The Black Track de 2009. On est sur une œuvre qui est une œuvre de mélange, une œuvre d'hybridation, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais enfin c'est une possibilité qui a été ajoutée aux possibilités anciennes par les dispositifs numériques. Bon, après on aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup le travail de cet artiste. Hein. C'est du... Il arrive à vraiment créer quelque chose de nouveau à partir d'éléments qui... C'est des auteurs qu'il aime, hein, à la fois qui l'ont inspiré. Mais on ne retrouve pas les œuvres originales là-dedans. Je ne sais pas si je vais passer tout le... Il s'appelle Giovanni Sample, donc si vous voulez aller voir ses œuvres, avec son nom, vous le trouverez facilement dans le... Vous le trouverez facilement dans les... sur les moteurs de recherche Internet. Ça. Alors, après, en termes de... Enfin, moi, je sais que j'ai un de mes anciens étudiants qui, est, bon, qui se trouve être un spécialiste du web art et qui le pratique aussi. Il a fait d'ailleurs son mémoire il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, ça ne nous rajeunit pas là-dessus. Le web art utilise la programmation, c'est-à-dire que l'artiste ne travaille pas la matière, il travaille un artefact qui lui-même va travailler un autre artefact. Et le premier artefact, donc le programme, est du côté du créateur. Et le deuxième artefact va être, lui, du côté du lecteur ou de l'utilisateur. On n'a pas de terme, d'ailleurs, général. Parce que,
Mais on vit dans un monde d'artefacts, quand même. On n'en sort pas.
C'est
un monde circulaire.
L'art comme la science sont complètement du côté de l'artefact, du construit, de la culture, du...
J'ai l'impression que c'est un monde circulaire. On réutilise les noms.
Oui, c'est le monde de la culture humaine. Moi, je dirais plutôt une spirale, parce qu'à chaque fois qu'on fait un tour, on agrandit beaucoup. Une spirale logarithmique.
Ouais.
On agrandit beaucoup le cercle, entre guillemets, à chaque fois qu'on fait un tour.
Ouais.
Mais c'est des racines qui sont anciennes. Enfin, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'aurais dû le lire plus tôt, l'ouvrage de Leroy Gourian sur c'est un paléo-anthropologue, Leroy Gourian, qui a beaucoup travaillé sur la notion d'outil, archéologue, qui définit l'homme culturel. Enfin, lui, il n'emploie pas ces termes-là, c'est des termes plutôt de chercheurs d'aujourd'hui, mais qui définit l'homme culturellement moderne par aussi le fait qu'on trouve dans un certain nombre de campements anciens. Peut-être les ancêtres des cabinets de curiosité, des pierres qui ont des formes surprenantes, mais qui servaient à rien, qui n'avaient que leur aspect curieux. Donc on ne sait pas si c'était utilisé à titre artistique ou à titre cultuel, ou on n'en sait rien. Mais on sait qu'elles ont été sélectionnées intentionnellement. Donc on a des traces depuis les débuts de l'homme moderne, anatomiquement moderne ou culturellement moderne, moi je mettrais cet élément-là au cœur à la fois de la recherche artistique et de la recherche qui deviendra plus tard scientifique, et d'abord peut-être la recherche tout court, la curiosité, parce que la science finalement c'est de la curiosité instrumentée et avec un certain nombre de valeurs. C'est les deux éléments. Et une forme de tradition aussi, qui est quand même importante dans la culture scientifique.
Je pose une autre question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la neuroesthétique ? Est-ce que tu en penses ?
Je ne connais pas assez pour avoir un avis sur la question.
Il y en a qui font des études en disant que ça se développe. On étudie le cerveau et on pense donc qu'il y a des zones où on va, qui sont propres pour la couleur, pour... le mouvement, etc. C'est-à-dire qu'on ramène à l'étude du cerveau. Quoi.
Alors, une des parties du cerveau, ce que je peux dire, c'est que les parties du cerveau qu'on connaît le mieux, les plus simples, et celles qui finalement... on pense souvent que c'est les émotions qui sont le propre de l'homme, parce que c'est ce qui nous apparaît le plus élaboré. En réalité, c'est quelque chose qui est partagé par la plupart des espèces un peu évolué, on va dire les mammifères pour faire simple, on s'aperçoit qu'il y a un système des émotions qui est très similaire au nôtre. Ce qu'il y a, c'est que chez nous, on parlait d'attitude propositionnelle, chez nous, les émotions vont être liées à des pensées qui, notamment grâce au langage, sont beaucoup plus élaborées. Mais les sensations émotionnelles, en réalité, sont assez simples et commencent à être bien connues. Pour l'instant, ce qu'on connaît bien dans la... Je fais un peu de neurophysiologie il y a quelques années, mais...
Il a tout fait.
Ce qu'on commence à bien connaître, c'est les sensations perceptives. Donc les perceptions les plus simples, la manière dont fonctionne notre système visuel. Notre système auditif, ça en a encore beaucoup de mal. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que le système visuel. C'est un petit peu plus... On est moins loin là-dedans. Et les émotions. Et en réalité, c'est des choses que... sur lesquelles on arrive à expérimenter, voir un petit peu. Alors, on n'est pas capable de dire quelle émotion ressent telle personne à tel moment, on n'est pas là. On n'est pas capable de voir quelle pensée se forme dans l'esprit d'une personne en particulier, mais on arrive à voir qui a une émotion qui va être un petit peu de tel ordre. Il y a eu beaucoup d'études, hein, dans les soins qui ont été portés à un certain nombre de personnes qui étaient épileptiques, parce que on devait parfois détruire certaines parties de leur cerveau pour faire cesser les crises épileptiques. Donc, pour être sûr de bien localiser les parties importantes et les parties qui étaient source des crises, ben on a fait des tests à cerveau ouvert. On repère les émotions ou les sensations ressenties à tel ou tel endroit. Donc, la phrénologie qui n'avait pas de sens, elle a quand même une histoire. Les fils qui ont eu.
Je pose une question horrible. Est-ce qu'il y a eu des parallèles faits entre les maladies de certains écrivains? Je pense à Dostoïevski qui avait quand même de l'épilepsie. Et il me semble qu'il y a des grands écrivains qui ont été épileptiques, non?
Pas forcément
tous,
mais. Oui. C'est la question de la mélancolie. Le terme de mélancolie désigne une maladie.
Oui, absolument.
C'est-à-dire des éclats des humeurs qui peuvent produire ce que nous on appellera bêtement des maladies. La présentation même de la mélancolie, la présentation d'un être, proprement au sens propre, déséquilibré quant aux humeurs qu'il habite. Ce déséquilibre, c'est une des grandes théories dès l'Antiquité. Ce déséquilibre, on pense la possibilité que ce déséquilibre des humeurs, sur la théorie de l'époque, produit du génie ou est même le signe d'un génie. Donc il y a la suspicion, c'est pas le bon mot, mais qu'effectivement telle ou telle manifestation pathologique pourrait être le signe d'une forme de génie pareil.
Bah oui.
Dès l'Antiquité, c'est très bien. D'où le fait aussi qu'il y a un traitement très spécifique de certaines formes de parfois de folie avec des guillemets. Pas dire grand-chose, mais alors, de déséquilibre justement parce que dans un certain nombre de cas, on se demande de quoi c'est la manifestation. Donc ça, c'est un débat dès l'Antiquité, encore une fois.
L'imagerie, la folie inspirée, oui.
Le mélancolique, c'est à la fois l'homme du génie, l'inventeur, et c'est aussi le malade, pardon. C'est quelqu'un qui est un déséquilibre au sens propre.
Voilà. Qu'est-ce qui crée le déséquilibre?
Je sais qu'il y a des études sociologiques qui ont été faites là-dessus, hein, sur la création, qu'effectivement, ceux qui avaient vécu des... il y a eu des études de psychiatrie aussi, hein, de Cyrulnik notamment, sur la création. Alors, tous ceux qui subissent des drames dans leur vie ne deviennent pas forcément des artistes ou des écrivains majeurs, hein, ça c'est évident.
Mais c'est-à-dire l'invention de l'art brut, c'est pas le mot.
Oui, absolument.
L'art brut repose de nouveau, l'étude des manières, ça a été une des occasions de proposer la question de la personne proprement déséquilibrée, qui manifeste une forme de déséquilibre psychique. Dans certains cas, ça se traduit par une forme d'inventivité.
L'inspiration des écorchés vifs, voilà.
Comme paraît-il, les trisomiques ont une sensibilité artistique très grande. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi.
Je ne sais pas. Je ne connais pas.
Est-ce qu'on parlait d'intelligence émotionnelle?
L'intelligence, c'est un mot piège. Hein. Les psychologues évitent, en tout cas en France, on évite d'employer trop ce mot-là parce que il est lié aussi un peu aux théories américaines de quotient intellectuel et tout ça. Qui est plutôt une pratique technique, c'est un terme qui est tellement connoté que, vous savez, en science, on essaye en général d'éviter les termes qui sont trop connotés, parce que sinon on se met à mettre dedans des choses qui n'y sont pas forcément. Mais il y a des études, j'ai vu, quand est-ce que j'ai vu ça? Il y a eu récemment... je l'ai lu récemment, mais peut-être en fait c'était plus ancien. Donc pour la science, peut-être dans les dernières, dans les derniers 12 mois, il y a eu justement un article très intéressant sur l'intelligence émotionnelle. Hein. C'est notre, alors eux formulaient ça mieux, hein, mais sur nos capacités de nous représenter les émotions d'autrui et de les percevoir. Et ça, c'est vrai qu'il y a certains d'entre nous qui sont plus doués que d'autres pour se représenter les sentiments d'autrui, leur souffrance ou leur plaisir, etc. etc. Donc, si on entend intelligence émotionnelle dans ce sens-là, c'est quelque chose qui, effectivement, est avéré. On a des capacités plus ou moins grandes de percevoir les sentiments de nos contemporains. Mais il ne faut pas l'opposer ni le rapprocher forcément d'autres formes, d'autres types d'attitudes cognitives qui n'ont pas forcément grand-chose à voir.
Mais je crois qu'on s'intéresse de plus en plus à l'émotion quand même maintenant.
Oui, mais hein, bon, à la fois, on est dans une société qui est guidée par la télévision. La télévision utilise quand même beaucoup l'émotion comme moteur. Et de fait, on a tendance à valoriser beaucoup l'émotion dans notre société en ce moment. C'est une valeur en hausse, on va dire, l'émotion. Bon, en tant que rationaliste, même si je trouve que l'émotion, c'est très important, c'est pas parce que c'est une bonne chose d'avoir une grande intelligence émotionnelle que pour autant il faut se laisser forcément guider par l'émotion. Tout à l'heure, on parlait de l'ordre à partir du chaos. La raison, l'ordre, l'harmonie, tout ce genre de valeurs qui sont plutôt des valeurs de l'ordre de la régulation, c'est quand même elles qui nous évitent un certain nombre qui ont vocation à nous éviter un certain nombre de malheurs, hein, le fait de s'entretuer, etc. Parce que le romantisme du 19e a quand même fini par susciter au 20e siècle une des plus grandes boucheries de... Alors, pas seul, évidemment.
Oh, pas seul, mais c'est un raccourci.
Non, il n'y a pas une relation de cause à effet, je n'irai pas jusque-là, mais la philosophie romantique qui avait parmi ces facteurs la valorisation de l'émotion et la valorisation de l'essence. Voilà, quand on valorise l'essence, bah, ça peut avoir ça a des effets quand même sur notre manière de voir nos contemporains. Après, la valorisation de l'émotion, si on ne dévalorise pas la rationalité pour autant, très bien, mais on voit quand même beaucoup d'émissions en ce moment autour de nous. Enfin, si vous allumez la télé à peu près à n'importe quelle heure, vous verrez des choses qui vont quand même valoriser l'émotion au détriment de la raison.
Oui, mais ce n'est pas la même émotion que l'émotion de l'ordre des romantiques, hein. C'est l'émotion. Enfin, il y a différentes sortes d'émotions quand même.
Disons que les grands romantiques ont fait des grandes œuvres qu'on ne peut pas comparer avec la télé-réalité. Mais il y a quand même dans le romantisme une valorisation de la grande émotion.
Hein, c'est le romantisme, il n'est pas 19e, il est fin 18e, il n'y a pas vraiment de rationalisme plus radical.
Complètement. Bien sûr. Et il est toujours vivant d'ailleurs. Bien sûr.
C'est lui qui a porté les révolutions du 19e. Il a porté aussi un siècle de mouvement aussi. Il est en est le reflet.
Il a valorisé aussi des choses qui sont. Je veux pas faire le. Je veux pas faire la critique du
l'enfermement. Je pense que. Oui, parce que de toute façon, un jugement historique, c'est toujours un peu dangereux aussi de dire c'est un mouvement.
Oui, non, mais je veux. Enfin, je veux dire.
Dans toute société, il y a des éléments qui vont mal interpréter la chose et qui vont devenir un peu les éléments monstrueux du mouvement. Bon.
Si on regarde les mouvements, parce que bon, dans la science comme ailleurs, hein, il y a eu beaucoup d'études d'histoire des sciences, enfin de philosophie des sciences, si on veut. Sur les idéologies qui ont porté un certain nombre de mouvements historiques, donc en histoire des sciences ou en histoire de politique. Hein, les idéologies, c'est pratiquement jamais tout blanc, tout noir. Hein. De toute façon, il y a des valeurs qui portent le mouvement historique, qui plus tard vont entraîner des choses merveilleuses ou des choses tout à fait dramatiques. Mais les mêmes valeurs interprétées par des, oui, dans des situations différentes par des personnes,
oui,
différentes.
C'est, hein, pas un mouvement.
Donc, loin de moi l'idée de dire que dans le romantisme tout est négatif, mais cette idée en tout cas de valorisation de l'émotion, elle a conduit dans certains cas. Dans certains cas, elle a conduit à de bonnes choses, probablement, mais dans d'autres cas, elle a conduit à dévaloriser les formes rationalistes, on va dire.
Moi, je me suis posé aussi une question, vous allez peut-être dire, sur l'exaltation de l'émotion et de l'imaginaire. Est-ce qu'à la fin du 19e siècle, parce qu'il y a eu quand même plein d'écrivains, hein, plein d'artistes, c'est foisonnant, moi, je me dis, fin 19e, bon, il y a eu beaucoup d'écrivains secondaires et de peintres secondaires, mais quand même, bon, tas de facteurs culturels, mais je veux dire, est-ce qu'on a fait des études par rapport à la fée verte, par rapport à l'absinthe,
Oui, d'accord.
Les choses, bon, absolument, mais pour dire, est-ce qu'il n'y avait pas... Non, bien, bon, ça, c'est toujours grave de faire des conclusions générales, mais tout de même, parce qu'ils allaient quand même au-delà, que ce soit avec le vin, avec, etc. Pardon ?
C'était des inhibitions, en fait, quand ils utilisaient l'utilisation de
cette... Ben, disons que l'alcool est désinhibant, mais l'absinthe, elle a un effet destructeur sur le cerveau, et puis ben, dans certains cas, ça produit des délires, des hallucinations, etc.
Tu m'avais pas parlé de l'histoire de drogue, là,
ah
aussi.
Oui, si, c'est que le mouvement psychédélique... Oui. Le mouvement psychédélique, mais une des sources du mouvement d'inspiration du mouvement psychédélique, c'est l'usage des drogues qui se développe... Alors, ça se développe beaucoup dans les années 60-70, si mes souvenirs sont bons, mais enfin, c'est un mouvement qui, en fait, remonte à des expérimentations, au départ, pour le bénéfice de... La CIA, je pense que c'était la CIA, c'était pas directement l'armée américaine.
Ah bon ?
Qui doivent commencer à peu près dans les années 50-60. Hein. Donc le LSD, c'est une création tout à fait méthodique. On a voulu examiner les effets de... voir si on pouvait systématiser et maîtriser les effets de l'ergot. Hein, le LSD, c'est dérivé de... C'est une molécule qui est dérivée de l'ergot du seigle. Mm-hmm. Hein, donc l'ergot causait des hallucinations, mais il causait aussi un peu la mort. Donc on a voulu maîtriser un petit peu mieux les choses. Hein. On a créé beaucoup de drogues de synthèse. Hein, donc le LSD et puis quantité d'autres derrière. Il y a eu un grand mouvement d'expérimentation. Un certain nombre de chimistes qui avaient participé au développement de ces substances ont aussi expérimenté sur eux. Ça a eu une influence tout à fait importante sur le mouvement psychédélique. Hein. Psychédélique, littéralement, ça veut dire libération de la psyché, la psyché. Donc on fait sauter un certain nombre de verrous. Enfin, c'était comme ça que c'était envisagé par ces auteurs. Alors ça donnait là aussi des choses qui sont intéressantes du point de vue artistique, puis des choses tout à fait néfastes. Hein. On pense que ça a fait sauter un petit peu trop de verrous dans la tête de Kaczynski, le human, comment il s'appelle, Una Bomber, hein, le gars qui a fait sauter un certain nombre de scientifiques justement parce qu'il était contre la société technoscientifique, a été un des premiers cobayes d'expérimentation du LSD par la CIA. Donc il y a parfois des retours un peu curieux de l'histoire.
Pourquoi la CIA faisait ces essais?
Parce que, alors je ne sais plus exactement d'où ça venait, mais ils avaient fait des essais sur des substances, notamment pour lutter contre les stress post-traumatiques liés à la guerre. Et puis pour je ne sais plus quelle autre raison. Ça faudrait que... Là, franchement, je ne me souviens plus des détails de l'histoire des substances synthétiques.
C'est un peu comme la cocaïne, finalement.
Ah bah, la cocaïne, elle a été utilisée aussi, et elle est toujours utilisée par un certain nombre de créateurs, mais plutôt pour des effets, c'est pas tellement pour des effets de type hallucinogène, hein, c'est plus pour des effets psychodynamiques. Hein. Mais bon, ça, je n'ai pas pratiqué. Donc,
on a évoqué plein de choses.
Ni la chose, ni les études sur la chose. Donc,
je sais pas, pour terminer, on peut peut-être aussi essayer de voir dans ces points communs entre l'art et la science, on avait évoqué la philosophie, hein, et matériel et immatériel. Ça, c'est ton domaine particulier. Donc,
C'est des choses qu'on a un peu évoquées là. Oui, hein, le fait que le développement des techniques numériques vont permettre des arts qui se détachent. Enfin, on a toujours des artefacts, mais on va aller sur des artefacts qui ne sont plus des artefacts matériels. Mmh. Et alors certains disent que l'art est aussi dans la résistance de la matière. Hein. Mmh. Donc là, la résistance de la matière, elle va se traduire tout à fait autrement. Il y a toujours une résistance de la matière, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois l'art. Hein. Toujours qu'il y a une résistance de la matière quelque part. Là, c'est vraiment une vision personnelle. Hein. Ouais. Dans l'exemple là que j'ai montré de Giovanni Sampol, on est sur des nouveaux types de supports. Quand on va être dans des systèmes de réalité virtuelle, hein, moi je trouve quelque chose d'extrêmement intéressant du point de vue artistique, c'est le développement des jeux vidéo. Mm-hmm. Hein, les jeux vidéo, on en a un certain nombre qui développent des univers artistiques, hein, mm-hmm, tout à fait nouveaux, avec quelque chose qui est de l'ordre de la sculpture de paysage. Parce qu'on a bien les arts paysagistes traditionnels avec des vraies plantes, mais là, on en arrive à des sculptures qui sont à la jonction de l'architecture, du paysagisme, de la sculpture, hein, avec aucune solution de continuité. Hein, d'ailleurs, on passe continuellement de l'un à l'autre, avec des paysages tout à fait... avec une recherche esthétique forte, souvent d'ordre figuratif, mais pas toujours. Hein. Il y a des choses qui sont plus abstraites. Hein. Et c'est un mouvement qui s'est beaucoup développé depuis, on va dire, la fin des années 90, et qui maintenant inspire le cinéma. On va avoir... comment est-ce qu'il s'appelait ce film ? On a eu beaucoup de films, hein, inspirés des univers de jeux vidéo... Alors là, on est dans la science-fiction, mais on a des choses qui sont plus de l'ordre de l'onirique. Hein. Mm-hmm. The Fall, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce film, ou c'est pas Two Fish ou Twin Fish ou un truc comme ça. Le titre m'échappe. On a des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'onirique. Mm-hmm. Donc les médias numériques vont finalement être capables de rendre de manière très figurative, hein, des espaces ou des univers qui vraiment de l'ordre de l'onirique, avec des bâtiments qu'on ne pourrait jamais réaliser dans la réalité, avec des végétations que,
je sais pas, j'emploie des mots.
Avatar, par exemple, mais Avatar reste encore assez classique.
Est-ce qu'on est dans l'univers du conte? Je dis peut-être des bêtises.
Ah bah le conte, oui, complètement. On est sur.
On revient donc.
En plus, avec quelques codes qui sont repris du conte ou de la fable. Si on prend l'exemple d'Avatar, il reprend des codes du drame et de la fable.
C'est ça qui est drôle, c'est qu'on revient. C'est, aux
des codes littéraires, je veux dire, du genre conte et du genre fable et du genre drame. Ce qui est très clair dans le genre drame, c'est qu'on sait pratiquement dès la première scène ce qui va se passer, le déroulement attendu. Mm-hmm. Il y a un côté fable, qui, moi en tout cas, me semble assez clair. Il y a un côté,
ça permet le basculement vers l'imaginaire, une autre forme de basculement, quoi.
Et on est sur des codes esthétiques qui sont ceux du jeu vidéo. Donc qui est une forme d'art tout à fait nouvelle, hein, puisque en réalité le jeu vidéo, dans sa forme actuelle, il se développe dans le courant des années 90, hein, et aujourd'hui il a atteint un chiffre d'affaires qui dépasse celui du cinéma. Donc Oui. C'est un art qui, par son extension commerciale au moins, est un art majeur.
C'est un art.
Il inclut des formes d'art. Je devrais plutôt dire ça comme ça, parce qu'en réalité, c'est de l'art de troupe, puisque en réalité, y a des acteurs, y a des musiciens, il y a des écrivains de musique, il y a des concepteurs graphiques, il y a des plasticiens, enfin il y a des sculpteurs qui, au lieu de faire des sculptures,
Et qu'est-ce
plastiques, matérielles, font
qu'est-ce qui supervise tout ça?
En général, c'est des directeurs artistiques. Hein, on a ici une école très très réputée qui était, dont l'université de Poitiers était partenaire jusqu'à il y a quelques mois. Je suis un petit peu fâché quand on l'a quitté, mais bon. On a une des premières écoles de jeux vidéo de la planète, qui est localisée à Angoulême, une des plus cotées, où on a vraiment des directeurs artistiques. En général, ils
donc
pratiquent pas que...
Donc c'est l'arme de guerre totale, puisque...
Ils pratiquent pas que... En général, les directeurs artistiques du domaine visuel des jeux vidéo, c'est pas les plus grands en tout cas, ce n'est pas des gens qui sont uniquement dans le jeu vidéo. C'est des gens qui dessinent au crayon, c'est des gens qui sculptent, c'est des gens, en général, c'est des artistes... voilà.
Alors, mais est-ce que ça ne va pas changer, ça? C'est peut-être parce qu'on en est au début.
Les jeux qui marchent bien, c'est des jeux qui ont une cohérence artistique, où il y a vraiment une ce que j'aurais tendance à appeler une ligne éditoriale artistique avec un vrai créatif à la base. On a eu quelques jeux français, parce qu'il y a une école française très très importante ici, avec des auteurs qui sont vraiment des auteurs très créatifs, soit du point de vue de l'histoire, soit du point de vue visuel, parfois les deux, qui ont donné des choses tout à fait remarquables d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire on a une nouvelle esthétique, des choses qu'on n'avait pas vues forcément dans le domaine de la peinture ou de la sculpture avant, qui seraient peut-être les arts les plus proches, ou de l'architecture parfois, avec des... là aussi, bon, il y a toujours comme souvent dans l'esthétique, il y a des choses qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas. Par certains côtés, il y a un retour à des formes qui pourraient sembler plus classiques, parce qu'on est dans l'ordre du figuratif et que l'avant-garde est plutôt allée vers d'autres choses. Mais c'est pas parce que c'est mainstream que c'est pas parce que c'est un art qui est très populaire qu'il n'y a pas des formes artistiques qui sont très intéressantes là-dedans. Moi, mon approche, c'est que c'est pas forcément l'avant-garde qui fait toujours les choses les plus intéressantes artistiquement. Et parfois, il y a des gens qui sont payés à la tâche qui font aussi des choses très 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 intéressantes artistiquement.
Mais en tant que plasticienne, par exemple, un dessin, même s'il va être numérisé derrière, il faut forcément qu'il soit ressenti au crayon. Donc il y aura forcément toujours des créateurs qui vont dessiner, qui vont ressentir les choses pour que la forme puisse évoluer sur l'image.
Et certains grands auteurs de jeux vidéo, enfin moi, il se trouve que je suis ça pour mes enseignements. Il y a un certain nombre d'auteurs que je... qui m'intéresse, que je regarde un peu leur discours, certains ne travaillent que sur papier crayon. Et c'est l'équipe derrière qui va retransformer ça en volume, qui va traduire leur... c'est des compositeurs, chefs d'orchestre.
Mais ça, c'est important quand même, qu'on garde ça.
Du visuel, quoi.
Donc ça montre bien le lien avec les arts traditionnels,
absolument,
quand même.
Oui, il n'y a pas de rupture. Alors peut-être si, chez certains artistes, il y a des ruptures, mais globalement, si on regarde l'ensemble des artistes, moi, de mon point de vue, c'est-à-dire comme quelqu'un qui regarde les usages numériques, je ne vois pas réellement de rupture avec les usages anciens, avec les pratiques anciennes de l'art. Il y a simplement des possibilités nouvelles, très intéressantes. Il y a vraiment des univers qui s'ouvrent. Après, il faut toujours il y a toujours de l'inspiration, de la maîtrise technique. Il ne suffit pas d'être inspiré. Ce qu'on a vu tout à l'heure, Lorio Emilia, faire un cœur battant à partir de détritus, Ça demande quand même une sacrée maîtrise technique.
Oui, oui, oui.
Donc, il ne suffit pas d'avoir l'inspiration, il faut aussi...
D'ailleurs, ils nous ont dit qu'ils auront des problèmes pour transmettre leur œuvre après. Parce qu'après, il faut reconstruire. Ils disent, voilà, il faut qu'ils fassent des fiches techniques pour reconstituer, ou quand ils ne seront pas là, de leur faire, parce que c'est très, très compliqué.
Bah, les œuvres numériques aussi posent de gros problèmes de conservation.
Le statut de l'œuvre lui-même, il est en train de changer. Enfin,
ah bah,
potentiellement, il a changé.
Ah bah, absolument.
C'est éphémère, évidemment. Donc.
Bah oui. Ouais.
J'avais vu des travaux à l'école de l'image en Angoulême, des étudiants qui ont avancé, qui travaillaient par exemple sur des salles, je ne sais pas, il faut pas appeler des salles de spectacle, des salles d'exposition, c'est pas l'exposition, des lieux artistiques, on va dire ça comme ça, où, avec des capteurs au sol, où l'œuvre produite. À la fois sonore et visuelle, elle dépendait du hasard des pas du spectateur dans l'espace. Alors, donc, un, c'est totalement éphémère. Deux, c'est totalement aléatoire. Donc, du point de vue que ça produit,
ça a été déjà fait avec l'art cinétique, ça.
Oui, ça a été fait.
Oui, parce que...
C'est pas nouveau.
Oui, c'est pas nouveau. Les théâtres visuels, c'est existé. Il y a quelqu'un qui... Agam, qui a travaillé avec UNESCO. Ils ont fait des théâtres visuels comme ça et en faisant intervenir aussi le hasard et tout ça. Mais enfin, bon, c'est intéressant.
Le musée n'a plus de sens, n'a plus le même sens en tout cas par rapport au...
Absolument.
Ça, c'est une évidence.
Alors, il y a peut-être un dernier aspect. En tout cas, je conclurai là-dessus.
Oui, on va conclure là-dessus.
Il y a un dernier aspect que je trouve très intéressant donc, dans ce mélange de la technique. Là, c'est plus la technique que la science et de l'art. C'est que les technologies numériques donnent accès à la pratique artistique, à beaucoup plus de monde qu'avant. Parce que c'est dans l'exemple de la musique, c'est beaucoup plus facile de maîtriser un clavier que de maîtriser un violon. Et on peut se concentrer sur l'œuvre produite. Dans le domaine de la construction vidéo ou musicale, comme on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup plus de créateurs qu'il y en avait avant, et ça, je pense que c'est, enfin, pour moi, c'est une source de réjouissance.
Certainement.
Tout n'est pas bon, bien sûr, mais voilà.
Un musicien, je pense, veut ramener à la perception, en fait, sentir la note qu'on fait sortir d'un violon, ça ne sera jamais le réglage sur une.
C'est évident.
Oui.
C'est évident.
On est en train de les incarner. Là.
Moi, à mon avis aussi, il y aura un retour de bâton aussi. On arrive, on va revenir au fer, la matière, refaire de la sculpture. Mmh. Voilà, c'est déjà.
C'est un discours qui commence à sortir. On commence à revenir, me semble-t-il.
Oui. Timidement, mais parce qu'il y a aussi ce besoin de repère, de retour à la matière. On en parlait quand même, pour savoir que...
Ah ouais, mais c'est le roi Gourian disait que c'était un signe d'évolution, ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que, en fait, l'art est parti du figuratif pour aller à l'abstrait. Et en réalité, quand on regarde l'art paléolithique, c'est l'inverse. On est parti de l'abstrait. Et on est allé vers le figuratif. Hein. Mmh. Pour cette époque-là. Aujourd'hui, l'art numérique, il est parti de formes qui étaient très abstraites. Hein, et aujourd'hui, il se développe sur des formes qui sont très figuratives. Et il reviendra vers des choses abstraites.
Oui, il y a un jeu de balancement. Hein. Il faut trouver un imaginaire qui... Voilà. C'est toujours la même chose. Quoi. On est
porté vers la nouveauté. Hein, donc,
alors moi, je suis très contente aussi de l'élargissement, mais il y a toujours dans l'esprit des gens aussi une forme d'élitisme dans l'art. On ne l'enlève pas. Elle existe. Donc, il y a des gens qui vont venir à la pratique musicale classique.
Bien sûr. Bon,
pour, voilà. Parce qu'on a besoin, parce que l'idée de transcendance ou de choses comme ça, qui est peut-être moins évidente, qui existe aussi, hein, mais qui est plus difficile à trouver. Je vous remercie, le public très actif et très...
C'était bien intéressant.
C'est pas ce qui était
merci
prévu au départ.
De votre patience et de...
On a essayé de faire partager ce qu'on aimait.
Voilà. On a bien été efficace entre midi et deux. Un peu. Voilà. Merci beaucoup.
Voilà, c'est pas ce qui était prévu, mais on espère que vous avez passé un moment agréable.
C'était très intéressant, vraiment.
si on va devant l'université Interroge, on prépare.